Virginie Langeroc.
À Blatten-en-Valais, l'eau du lac passe désormais au-dessus des éboulis. La situation est donc un peu moins inquiétante. Après l'effondrement hier du glacier du Birch qui a totalement englouti le village, l'eau de la rivière Lonza, retenue par les tonnes de débris tombés sur le village, a commencé à se frayer un passage vers l'aval. Au fur et à mesure des heures qui avancent, on peut réduire le risque d'un scénario catastrophique, assure le géologue cantonal Raphaël Maiora. On sait toutefois que l'on doit garder en tête un tel risque. Plus en aval, le barrage de Ferden a été totalement vidé. Il est prêt à retenir jusqu'à 1,5 million de mètres cubes d'eau, de glace et de gravats qui pourraient se déverser depuis le village de Blatten. À Gampel et Steg, deux localités situées en aval, des digues sont installées. La population est invitée à se préparer à une éventuelle évacuation. Le ton monte entre Israël et la France. Israël accuse le président français d'être en croisade contre l'État juif. Ce matin, le président français a assuré que la reconnaissance d'un État palestinien sous condition n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Actuellement en visite en Asie du Sud-Est, le président français a répondu « Si nous abandonnons Gaza et laissons faire Israël, nous perdons toute crédibilité à l'égard du reste du monde ». C'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron qui assiste à un forum sur la défense à Singapour. Au Nigeria, des pluies torrentielles ont emporté hier soir des dizaines de maisons dans une ville du centre du pays. Le bilan des inondations est d'au moins 88 morts. L'inflation en Allemagne est restée stable ce mois de mai sur un an, aidée par le recul des prix de l'énergie. L'indice des prix à la consommation a atteint un peu plus de 2% sur un an. De quoi rassurer la Banque Centrale Européenne qui devrait décider la semaine prochaine d'une possible nouvelle baisse des taux d'intérêt. La police cantonale bernoise a découvert tout récemment trois plantations de chanvre contenant au total 3000 plants à Röttingen et Darmstetten dans l'Oberland bernois. L'exploitant présumé, un homme de 49 ans, a été arrêté. Il a été déféré devant la justice. En plus des plants de chanvre, la police a trouvé plus de 27 kilos de marijuana séchée prête à la consommation et plusieurs armes. La drogue a été détruite. La police a saisi les armes découvertes et a ouvert une enquête. L'auteur balois Alain-Claude Sulzer reçoit le prix de littérature dans le cadre des 47e journées littéraires de Soleur. L'œuvre d'Alain-Claude Sulzer comprend à ce jour une douzaine de romans et de nombreux textes en prose. Il a déjà été récompensé par de nombreux prix, plutôt à l'étranger, notamment le prix Médicis étranger en France, le prix Hermann Hesse en Allemagne. En Suisse, il a reçu le prix de l'œuvre individuelle de la Fondation Schiller Suisse et le prix culturel de la ville de Bâle. Plusieurs de ses romans sont traduits en français et dans de nombreuses langues. Le temps aujourd'hui, du soleil avec de timides cumulus cet après-midi en montagne. En plaine, il fera un maximum de 26 degrés. Le week-end s'annonce également très estival avec des températures qui pourront aller jusqu'à 28 ou 30 degrés. Des nuages vont malgré tout se former l'après-midi en montagne, demain et dimanche. Il pourrait y avoir des averses ou des orages isolés sur les reliefs, surtout le long du Jura et des Préalpes. Orages ou averses qui pourraient déborder en plaine pendant la nuit. Et puis le début de la semaine prochaine sera perturbé avec des pluies fréquentes qui feront légèrement baisser les températures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch.
Le Grand Soir.
Retrouvez l'événement qui décoiffe dans Le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Mathé-Doré.
Une émission réalisée comme hier par Sophia Muller. J'ai le plaisir de vous retrouver, chère Mélanie. Comment ça va,
c'est une joie. Tout va bien, et vous?
Oui, mieux que les montagnes, j'ai envie de dire. Mieux que les montagnes qui s'écroulent, si proches de nous. Et d'ailleurs, cet après-midi, on reçoit un amoureux, oui, de la montagne aussi, mais de la neige, de la glace du Grand Nord, un amoureux de la nature tout court, des espèces qui habitent la nature. La dernière fois que nous avions croisé sa route, Je m'en souviens très bien, c'était pour parler de l'ours blanc, le thème de son précédent ouvrage, ouvrage choral, qui était à la fois poétique et scientifique, pédagogique aussi, puisqu'il a été distribué et enseigné dans les écoles, ouvrage qui était comme un cri d'alerte porté au monde. Aujourd'hui, on va le retrouver quelques années après, alors que l'environnement qu'il aime n'est pas en grande forme. Bonjour Daniel Rohrbacher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Sculpteur et musicien de formation, photographe, conférencier, vous avez grandi dans le canton de Fribourg, vous avez beaucoup voyagé, notamment dans le Grand Nord, on en parlait. C'est presque votre deuxième patrie, le Grand Nord, Alaska, Groenland, Islande, Scandinavie. D'où il vient cet amour, au fond? Commençons par là.
Je pense que je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit.
Comme Obélix.
pour reprendre vraiment ça tout au début. Quand j'étais en âge d'aller à l'école enfantine, j'avais de l'asthme assez fort. Et puis comme ça se faisait dans ces années-là, j'étais dans des sanatoriums, alors quelques fois, quelques mois. Et je me rappelle de deux événements, c'est vraiment mes deux premiers souvenirs de vie presque. Le tout premier, c'était on faisait beaucoup de sorties en montagne, beaucoup de marches. Et puis une fois à côté d'une cascade ou d'un torrent, j'ai pu remplir mon gobelet d'eau. Et j'ai reçu du sirop, puis j'ai pu boire ça à ce moment-là, il faisait chaud, je pense que le soleil tapait comme aujourd'hui. Et ce sentiment-là de pouvoir boire cette eau comme ça, c'était extraordinaire. Et puis en même temps, il y avait un livre que mes parents avaient une fois acheté, que tout le monde a à la maison, je pense, ces collections Mondo, on collait des images dedans, c'était sur le Groenland.
Et je l'avais.
Alors magnifique. Et moi, j'étais donc là-bas coincé dans mon sanatorium, mais je voyais ces Groenlandais, cheveux au vent, dans le mauvais temps, dans la glace, sur la banquise. Ils résistaient à tout, ils supportaient tout, ils savaient tout faire. Ils chassaient, pêchaient, cueillaient. Et bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis je pense que j'ai dû me dire, un jour, je ferai pareil. Et ça a dû partir un petit peu de là, je pensais.
Tout
cette
est parti
envie
d'un...
depuis toujours d'aller en Arctique, voilà.
C'est parti d'un bouquin et d'une gourde d'eau très froide.
Et d'un sanatorium.
Ouais. Votre dernier voyage là-bas dans le Grand Nord, Daniel Rohrbacher, avec votre famille qui est d'ailleurs derrière la vitre, votre femme et votre fille sont pas très loin. Votre dernier voyage date de quand?
Le dernier, c'était l'été passé. Donc c'est toujours, mes voyages, c'est toujours dans le but d'amener du matériel, des illustrations, des photographies pour ces projets de sensibilisation, que ce soit dans les écoles, les conférences, les expositions, mais surtout là, le deuxième livre qu'on est en train d'essayer de mettre sur pied. Et pour ça, j'ai été près d'un glacier, le Nordenskjöldbrinn, qui a au fond de l'Isfjord, le plus large fjord qui traverse le Spitzberg. Le Spitzberg, la plus grande île de l'archipel du Svalbard, presque aussi grande que la Suisse. Puis là, il y a une cabane qui est plus un peu réduite qu'une cabane qu'on a le droit d'utiliser. Et puis j'ai pris cette cabane comme un peu comme camp de base pour poser toutes mes affaires. Et puis après, j'étais dans la nature devant ce glacier, dans les montagnes qu'il y a tout autour. Surtout à la recherche de l'eau parce qu'il y a que de l'eau partout en fait là-bas sous toutes ses formes. Et puis ça sera justement le fil conducteur du tome 2 du deuxième livre.
Alors on en parlera de ce projet. Qu'il faut soutenir, qui est aussi un projet pédagogique comme le précédent autour de l'ours blanc. Le thème, c'est l'eau, vous venez d'en parler. La banquise arctique, celle qui est au nord, a déjà perdu la moitié de sa surface en 30 ans. Des études montrent que l'océan arctique pourrait connaître son premier jour sans banquise avant 2030. Donc c'est tout de suite, c'est dans 4-5 ans, avec des conséquences évidemment majeures sur le climat, sur l'environnement, sur l'écosystème polaire. Vos travaux, Daniel Rohrbacher, nous disent cette fragilité et sauf erreur, c'est une phrase de l'ancien vice-président américain Al Gore qui vous avait inspiré à l'époque. Je l'ai sous les yeux, mais peut-être que vous en souvenez, vous.
Alors, Al Gore, c'est probablement quand il disait que dans le patrimoine de l'être humain, il n'y a pas que la cubilité, la mesquinerie et la... Et quoi encore, enfin un truc de ce style, mais qu'il y a aussi la création, les initiatives, enfin toutes les choses positives qui peuvent accompagner une belle démarche orientée vers l'être humain, mais c'est pas comme ça qu'il le dit, mais je crois que c'est un peu le fond.
Quasiment comme ça, non, bravo. Il disait qu'il fallait maintenant saisir l'opportunité que recèle la crise climatique, et là on est il y a 20 ans, quoi, au début des années 2000, pour donner libre cours à la création, ça c'est vous, l'inspiration, l'innovation qui font autant partie de notre patrimoine que la faiblesse, la cupidité et la mesquinerie. Bon, bah, y a du boulot encore. Hein. Est-ce que vous avez suivi, en parlant de glace qui fonde, ce qui s'est passé dans le Lütjental? J'imagine que oui, Daniel Rohrbacher, ces derniers jours. Comment ça résonne en vous, cette actualité-là?
Alors, c'est bouleversant, d'autant plus que, si je ramène ça juste à moi deux secondes, moi j'ai des racines très fortes, ma famille, ma région. Et j'imagine maintenant tous ces villageois, toute cette population qui vient d'être déracinée aussi brutalement et aussi définitivement. Encore une personne qui est portée disparue, qui est décédée. C'est violent ce qui se passe là-bas, absolument.
C'est quelqu'un, on a lu ça tout à l'heure, qui était retourné sur place pour essayer de sauver ses moutons. On l'a lu, c'est très touchant.
Ouais.
Vous n'êtes pas un militant écologiste au sens strict du terme, Daniel Rohrbacher. C'est pas par ce biais-là que vous voulez vous adresser aux étudiants et à vos lecteurs. Hein. Il n'y a pas de militantisme stricto sensu dans votre démarche.
Alors, ouais, est-ce que c'est une faiblesse? Je me pose des fois la question, parce que je trouve les gens qui sont militants, je les trouve souvent très très courageux. Et après, c'est pas dans ma nature, je crois, d'aller trop frontalement. Je pense que ce que moi je peux apporter, c'est plus dans un registre qui est des fois difficile à porter, c'est ma sensibilité, mais qui me sert à rassembler peut-être des personnes de bonne volonté autour de ce projet ou à créer, ben, encore une fois, l'illustration, les images, tous les documents qui vont accompagner ces documents scientifiques dans le livre. Je pense que je suis meilleur, enfin, je suis un peu plus efficace ici, je fais un tout petit peu plus partie de la solution en étant là, dans ce registre-là. Qu'en étant, je pense qu'il me manque aussi une formation scientifique, probablement. Je serais pas à ma place, je serais pas légitime en étant vraiment comme vous le pensez là maintenant.
Avec des banderoles au-dessus de la tête.
Hein. Ouais.
Comment allez-vous à part ça dans cette drôle d'époque? Vous savez, c'est une question qu'on pose à tous nos invités et qui est vraiment une question très large et très générale.
Oui, ben ça fait déjà plaisir d'entendre cette question puis que la personne au bout, elle est prête à écouter la réponse parce que c'est quelque chose qu'on lance souvent spontanément. Mais je pense que je suis dans une phase là un petit peu maintenant où il me manque vraiment le lien avec la nature et c'est souvent un petit peu vers le printemps, la fin du printemps. Les mois précédents étaient plutôt au bureau ou à l'atelier, ils étaient bien remplis avec tout ça. Et puis là maintenant, il me manque vraiment ce lien, mais qui nous manque peut-être à tous, le vent, les rochers, la neige, mais peut-être aussi la mer, la terre, les cheveux dans le vent, un peu toutes ces rencontres avec la nature qui sont toujours bouleversantes. Alors ça, c'est quelque chose qui me manque maintenant. Et je me rends compte aussi que quand ça se prolonge trop, comme maintenant depuis le mois de novembre, c'est la dernière fois que je suis allé faire un tour en montagne.
Vous n'êtes pas retourné en montagne depuis le mois de novembre?
Non.
Écoutez...
Oui, ça va pas du tout.
Ça vous interpelle, ça, Simon.
C'est terrible, ça.
Alors, je me rends compte que, disons, cet appel de la nature, il vient toujours plus distant. Et c'est quelque chose qu'il faut pas laisser aller, tout simplement. Et j'aime des fois dire, ben, j'aime bien la montagne, les névés, tout ça, là, ces fissures, ces cassures, ces crevasses, c'est comme si elles s'élargissaient toujours plus, qu'elles devenaient toujours plus profondes. Et j'entends toujours moins l'appel de la nature. Et puis, à un moment donné, ça, c'est une situation que je trouve qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment malsaine.
Et alors, faut retourner tout de suite, là. Vous avez des projets pour fin mai, début juin?
Ouais, alors il y a de toute façon cet été avec au mois de juin un départ rouge Pittsburgh et puis
retour au nord puisque l'été arrive.
Et vous, la dernière fois en montagne, Mélanie?
Bah, j'étais en train de me dire mois de novembre, mais quelle année? C'est 2011 pour moi, un truc comme ça. Mais je la regarde de loin et je l'admire beaucoup.
Absolument. En tout cas, ce qui est à noter dans votre démarche, Daniel Rohrbacher, on parlait du côté militant ou pas, bon, vous restez toujours, si ce n'est positif, en tout cas enthousiaste. Vous allez de l'avant. C'est un de vos traits de caractère.
Oui, et c'est aussi quelque chose qui a été renforcé par des personnes avec qui j'ai pu vivre des voyages en Arctique. Et j'ai un de mes amis, Jacques, qui a vraiment ce biais positif extrêmement fort en lui. Et c'est quelque chose qui est contagieux quand on passe du temps intensif avec ces personnes, comme ça a été le cas ces 10 jours dans la nature, ou que ce soit à cause du brouillard, ou à cause du froid, ou à cause de la visibilité qui commençait à diminuer, à cause des ours, ou même peut-être l'itinéraire qui commençait à devenir incertain. Gardait toujours ce biais positif enclenché, absolument rien se mettait toujours là en travers, et ça c'est des magnifiques exemples, c'est une grande chance pour moi d'avoir régulièrement des exemples comme ça autour de moi, et puis je pense que c'est la seule chose qui peut au final inspirer aussi et mobiliser les gens qui nous entourent, parce que le contraire est vraiment lourd et ennuyeux. Il faut absolument aller dans cette direction.
Si je vous comprends bien, vous faites, Daniel Rohrbacher, autant de la sensibilisation ici en Suisse que là-bas, sur place.
Non, sur place, je suis plutôt discret et invisible. Je pense, on a fait une fois, pardon, c'est pas tout à fait juste, on a fait une fois une exposition en 2016 à Nibienne. C'est un petit village qui est à 1 kilomètre au nord de Longyearbyen. C'est le village principal où,
ça, c'est toujours
où tout le monde atterrit,
Spitzberg.
Au Spitzberg. Et c'était une exposition qui avait été préparée, je pense en tout cas déjà depuis 2 ans auparavant. Donc le but, c'était une vingtaine ou 25 même photosculptures, des travaux qui associent les deux, et des dessins. Puis c'était vraiment parler aux gens du réchauffement climatique, beaucoup de la pollution aussi, l'impact sur l'habitat de l'ours polaire, sur la santé des ours polaires. Et là-bas, je parlais vraiment à des convaincus, et d'autant plus que par un hasard terrifiant, cette exposition a eu lieu 5 mois après une avalanche meurtrière qui est descendue depuis le Zuckertoppen jusque dans le village en emportant 10 maisons sur son passage et 2 vies. Et c'était bouleversant d'entendre encore l'année passée Hilde, une des personnes qui a participé dans le premier livre, nous raconter, c'est parce qu'Hilde habite la 11e maison, celle juste à côté qui a été épargnée cette nuit-là, et comment tout à coup ils se sont retrouvés ce 19 décembre, il fait froid, alors il fait nuit, même que c'était 10 heures le matin, tout à coup un immense bruit, tout qui tremble, et puis ils se sont retrouvés en chaussettes et en pyjama à rechercher sous les décombres. C'est des histoires à entendre, des événements bouleversants vraiment, et qui bouleversaient Hilde encore 10 ans après les événements, et ça a complètement changé sa vie. Elle a laissé son activité professionnelle d'avant pour travailler plus que dans la sensibilisation, apporter son témoignage le plus largement possible.
Oui, ça résonne particulièrement fort avec les événements, encore une fois, du Lötschental, ces maisons qui s'écroulent. Le Spitzberg, vous l'avez dit, mais on va peut-être le resituer une fois pour toutes sur la carte, parce qu'on va en parler pas mal durant ces 2 heures. C'est un archipel qui est au nord du Cap Nord, c'est-à-dire en gros entre le nord de la Norvège et le pôle Nord, à 78-80 degrés de latitude nord. Il y fait généralement très froid et nuit une bonne partie de l'hiver, mais là, aujourd'hui, fin mai, début juin au Spitzberg, c'est le soleil 24 heures sur 24.
Oui, depuis déjà, je pense, plus d'un mois. Et puis, on parlait un petit peu des températures avant. C'est vrai qu'elles sont plus douces quand même dans cet archipel du Svalbard que partout ailleurs sous la même latitude en Arctique.
Il y a le Gulf Stream.
Exactement, ce courant océanique doux qui apporte quand même un peu de température un peu plus clémente là-bas.
C'est quoi que vous appelez plus clémente?
Alors, j'aime bien dire, par exemple, qu'au Spitzberg, l'hiver, c'est du mois de septembre au mois de mai. Après, le mois de juin, c'est le printemps. Le mois de juillet, c'est l'été. Le mois d'août, c'est l'automne. Et puis, on est reparti pour un tour complet. Et les températures en été peuvent être vraiment assez clémentes quand même. Parce que, par exemple, l'année passée, j'étais dans ma cabane, je prenais des nouvelles sur les prévisions météorologiques, et on allait annoncer pour le jour du retour 20 degrés.
Ah oui. Je crois que c'est presque pas normal.
C'est fou, ça.
C'est presque trop chaud.
C'était jamais arrivé. Je crois que ces prévisions-là n'avaient jamais existé. Puis finalement, ce jour-là, il a fait que 15. Enfin, c'est énorme. Avec beaucoup de vent, le bout de fjord était très agité, puis il n'y a pas eu de retour possible. Donc, c'est pas arrivé. Mais au mois de juillet, il peut quand même faire des fois relativement
10,
doux. C'est rare et c'est pas toute la journée, c'est un petit moment. Mais il peut faire ces températures-là.
Et en hiver?
Alors, cet hiver, j'ai une application sur mon téléphone. Je suis un peu ce qui se passe par là-bas, mais ils sont rarement en dessous de moins 20. Donc, là, vraiment la température. Après, il y a tout ce qui est ressenti avec la pression du vent, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fait si froid cet hiver.
Précisément à cause du Gulf Stream, parce que c'est vrai qu'en Sibérie, c'est plus bas, à une latitude plus basse, il peut y avoir des moins 40, des moins 50.
Mmh. Vous êtes branché là-dessus aussi, Simon?
Ben oui, évidemment. Oui.
Moi, je suis branché sur les Caraïbes, il fait toujours 25.
Ah, oui, c'est pas mal. Mais le Spitzberg, pour vous, en été, Mélanie, 15-20, vous... Ouais, je vous vois là-bas avec une petite doudoune. Allez, on va vous garder, Daniel Rohrbacher, jusqu'à 17h. Vous allez nous raconter votre parcours de vie et vos projets. Premier choix de votre part, Nemo. Alors, on le connaît, Nemo. Il a gagné l'Eurovision l'année passée. Et ça s'appelle Quebok. Comment on doit prononcer?
Quebok.
Ah oui, c'est comme ça.
C'est du saginois.
C'est du saginois.
Quelque chose comme ça.
Ja genau, denk nur schlau, Bock kann ich trotzdem nicht. hypocrite business. Albert Spitzer's hypocrite me. Ik mag een om mijn rap om te zitten. I'm the secret in die kop van die drie. Hak heb ook goed zo'n Facebook poëten. Word ik weggezegd, die proleten. Hey, neem maar die überhaupt zoekt. Ja, nee, wirklich, ja, de film ook gloeit. Hak heb lust als laatste voor. Ik heb liever z'n eerste gezien. En is het nur, dat ik dir heb klaren. Dus du mir op een wekker geeft. Ik heb geen Bock auf dich. Ik heb gesagt, geen Bock auf dich. Bla bla bla. Ich will dich erwarten, aber Bock kann ich trotzdem nicht. Ich hab keinen Bock auf dich, kein Bock auf dich. Ja genau, red nur mal schlau, und Bock kann ich trotzdem nicht. Oh. Okay, Lausanne. Are you gonna sing with me? It's pretty easy. It goes. Oh.
Québec en Saint-Ginois.
Vous avez c'était... appris à dire un truc en vernois Saint-Ginois.
Oui, ça, oui, chaque jour je progresse un peu grâce à notre invité Daniel Rohrbacher. Alors pourquoi ce choix de Nemo et pourquoi le choix de cette chanson-là? D'abord, ça veut dire quoi, Québec?
Québec, j'ai pas envie.
D'accord.
Québec. Et puis c'est plutôt le choix du musicien. En le voyant dans sa dernière interprétation de ses derniers chants, Unexplainable, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et il avait tellement d'engagement sur scène. On parlait avant de militant, c'est ce que j'aimerais être capable de faire, je crois. Mais c'est une force gigantesque de ce petit monsieur et je trouve ça extraordinaire.
Est-il militant, Nemo? Il parle de lui, il parle de ses émotions. Peut-être, je ne sais pas, Mélanie, vous avez un avis sur la question?
Il s'est engagé quand même au moment de l'Eurovision en disant qu'il était contre la participation d'Israël au concours Eurovision. Donc
il était engagé. Personne qui se définit comme non-binaire et qu'on aimerait retrouver. Il s'est fait relativement discret hein, pendant toute une année. Il a réapparu à l'occasion de cette Eurovision-là. Vous avez suivi l'Eurovision cette année, 2025 un peu?
Oui.
15h23, Daniel Rohrbacher.
Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, de l'Eurovision, je crois. Ouais. J'ai eu la liste des chansons.
Oui, il y en a un autre, oui. Une autre, pardon. Ouais. Il y a l'Eurovision de cette année. On écoutera Zoé Mé aussi, qui a terminé à 10e position, sauf erreur avec sa chanson Voyage. 15h23, disais-je, en direct sur RTS Première. C'est drôle d'époque, c'est l'heure d'écouter. Alors là, vous pouvez mettre votre casque, Daniel Rohrbacher, d'écouter votre portrait. Réalisation Sophia Muller et lecture, écriture, Mélanie Croubalion. En direct, bien sûr.
Il fait très chaud en cet après-midi de juillet sur les côtes groenlandaises. 5 degrés au thermomètre accroché devant la cabane de Calique. Daniel est assis dans le salon inondé de lumière, les pieds posés sur une peau de renne. Devant lui, sur la table basse, une tisane de plantes arctiques répand doucement sa fumée dans un rayon de soleil. Tout est calme. Daniel remercie Calique pour le bon repas qu'ils viennent de partager. Il lui a préparé un suazat, sorte de pot-au-feu à base de viande de phoque avec du riz et des oignons.
Wow.
En étouffant un relent de ce repas, Daniel se félicite d'avoir échappé aux traditionnelles nageoires de morse faisandée. C'est vrai, j'ai cherché. Calique revient dans la pièce avec son mug fumant rempli de café. Il sourit jusqu'aux oreilles. Daniel admire l'énergie calme de cet Inuit groenlandais qu'il a appris à connaître et dont il vient d'apprendre la signification du prénom, qu'il va comme un gant. Éclair. Comme celui qui brille dans ses yeux en amande. Le regard de Daniel se perd dans un coin de la pièce, derrière la silhouette de Kalik qui s'assied sur le fauteuil en face de lui. Il y distingue une forme familière et son cœur s'accélère.
Ce n'est pas le piano, ce n'est pas le violon, ce n'est pas même la trompette, c'est l'accordéon qui sera l'objet de notre reportage puisqu'il était l'autre jour dans les palais de la Mutualité, la vedette du premier congrès international qui réunissait les partisans de tout pays de l'accordéon. Car les accordéonistes ne sont pas tous gens portant la petite casquette et entraînant des couples louches au son de musette ou de java dans les bistrots de la rue de Lappe.
Voilà maintenant 2 heures que Daniel joue sans relâche, dialoguant mieux qu'avec des mots avec son hôte qui s'est emparé d'une guitare. Le soleil a baissé, la lumière est devenue grise, Daniel joue et son sourire s'élargit. Il est heureux d'être là. Il pense à ce moment terrifiant et exaltant qu'il vient de vivre il y a à peine un mois. Seul, sous sa tente, à Imer Bukta, bien plus au nord, dans l'archipel de Svalbard. Il n'oubliera jamais ce lundi 19 juin. La journée avait bien commencé. Il avait passé quelques heures à observer de loin un ours polaire qui jouait dans l'eau. Mais soudain, l'animal avait décidé de venir renifler ce curieux bipède qu'il observait de loin, caché derrière l'enclos de pétards qui entourait sa tente. Daniel l'avait vu avancer à grande vitesse. Il en était resté cloué sur place, le cœur battant et les genoux en coton. Et malgré sa terreur, il n'avait pas manqué une miette du spectacle.
On connaît des mâles qui atteignent une tonne en hiver quand ils sont bien gras. Cette taille d'ailleurs énorme le protège du froid. Vous savez que plus on est gros, moins on perd de chaleur. Alors, c'est l'animal terrestre qui va le plus loin au nord. Ce qui lui plaît, lui, c'est de vivre à la limite entre la glace et la mer libre. C'est là qu'il arrive à faire ses affaires, et en particulier à trouver ses proies, puisque c'est un gros mangeur de phoques.
À 50 mètres, Daniel avait distingué les moindres détails de cet animal si rare. Sa fourrure blanche, ruisselante d'eau de mer, sa respiration rauque, et ce regard noir, profond et presque doux, qui avait croisé le sien l'espace de quelques secondes, qui avait duré une vie. Daniel prend une grande inspiration en commençant une nouvelle mélodie à l'accordéon de son ami Kalik. Il se souvient de son soulagement quand l'ours avait poursuivi sa route et détourné le regard de ce moustique humain, intrus en terre arctique. Il est temps pour Daniel de prendre congé de son hôte. Il le remercie chaleureusement en une franche accolade. Ça sent le poisson fumé et la graisse de phoque avec un relent de vieille bière. Daniel reprend la route et en contemplant l'horizon depuis le rivage, il pense à la toute première fois qu'il a mis le pied sur ce continent qui le fascinait pourtant depuis son plus jeune âge, quand il rêvait d'aller en Alaska. Il pense à Martine, à leur voyage de noces dans cette terre si souvent rêvée.
Elle est juste là derrière.
Oui, elle est là, elle écoute aussi. Au camp de pêcheurs où ils avaient été accueillis, à la petite cabane qui abritait leur lune de miel, et à Bela, la grand-mère qui leur avait raconté une vie peuplée de morses, de phoques, d'ours polaires, de caribous et de toundras, avec une banquise qui s'étendait encore à perte de vue. En marchant le long du rivage, il ne peut supprimer une peur lancinante, celle de croiser à nouveau le plus grand prédateur du monde, un ours blanc, qui serait à la recherche d'un goûter. Il pense à Hildé, cette grande dame qui essaye d'apprivoiser sa peur en allant tous les jours marcher sur un sentier à fort potentiel d'ours polaire.
I grew up in Fjellhamar, Norway, as a little explorer, and I love the season winter. Winter, ski, snow and ice became my passion. What are you passionate about?
Daniel avance sur la terre groenlandaise. Il ouvre sa veste. Il a chaud, trop chaud pour un mois de juillet en terre arctique. Il pense au climat qui se réchauffe, aux ours blancs qui s'épuisent à force de devoir nager de plus en plus loin pour trouver leur pitance, à la fragilité de ces bêtes qui sont pourtant les plus dangereux carnivores de la région. Il se souvient de ses promenades dans la campagne de son enfance, près du village où il a grandi, et où l'humain, lui aussi prédateur, avait construit une usine où mouraient chaque jour des centaines de poulets.
Le village de Courtepin est d'une superficie très restreinte, ce qu'il voue très tôt à l'industrie. C'est-à-dire vers 1900 déjà, une usine, ou plutôt une fonderie, était déjà installée à Courtepin. Et elle est devenue plus tard, aujourd'hui, l'usine SADEM.
Voilà, une usine importante.
Monsieur Lurati. D'autre part, en 1952, les premiers pourparlers eurent lieu pour l'arrivée de Mikarno.
Voilà, voilà, donc d'autres grandes firmes. Il y a beaucoup de grandes firmes ici, dont vous avez la gentillesse de ne pas dire les noms, autrement on reçoit des lettres innombrables et souvent anonymes. Oui, vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
Donc il y a industrie et alimentation, c'est très important, oui, Courtepin. On ne peut pas en dire plus.
Non, pas davantage.
Comprenne qui peut.
Pas davantage.
22, vous allez poulet.
Ça, c'est une denariade. Hein. Daniel est arrivé à son hôtel. La nuit est tombée sur le Groenland. Il donnerait cher pour pouvoir déguster une fondue ou une planchette après cette petite demi-heure de marche. Comme lorsqu'il finit une sortie en peau de phoque dans son pays natal. Il met la main au fond de sa poche et en sort le cadeau qu'il a reçu de Bella il y a des années, dans le village inuit où il a passé sa lune de miel. C'est devenu son gris-gris. Il l'emmène avec lui à chacune de ses expéditions dans le Grand Nord. C'est un ours sculpté dans la pierre, au cou allongé et aux lignes pures. Il en caresse les courbes et songe à son formateur, Ernest Ruffieux, qui le tout premier lui a appris à faire d'un morceau de bois une œuvre d'art. Il regarde le petit ours dans ses yeux de pierre et lui fait une promesse solennelle et silencieuse. Il va tout faire pour sensibiliser le monde entier à la fragilité grandissante de ses congénères qui ont de plus en plus faim, partout, sur la banquise ou dans l'eau.
Merci beaucoup, réalisation Sophia Muller, et merci Mélanie. Vous vous joignez le geste à la parole, au fond. Daniel Rohrbacher, vous avez entendu ce portrait, sensibilisé à travers vos mains, puis le bouquin que vous avez écrit il y a 4-5 ans, Dans la trace de l'ours blanc. Sculpteur de formation, on peut insister sur ce point-là. Et vous continuez d'ailleurs la sculpture, vous venez de nous le dire, vous avez passé pas mal de mois dans votre atelier là cet hiver.
Oui, à propos de la sculpture, mais je dois d'abord dire comme ce portrait m'a touché. Je suis un type sensible, j'ai beaucoup d'émotions et il y a tellement de petits bouts de vérité. Il y a beaucoup de toutes ces rencontres ont existé.
Calic.
Et Calic aussi, ouais. Et pour la petite histoire, on était sous tente avec Martine à Kulusuk. Et puis il pleuvait depuis 3 jours. On restait un peu sous tente parce qu'on avait qu'un jeu d'habits, etc. Et tout à coup, il y a ce monsieur qui vient toquer un peu, si on peut dire, à la toile de tente pour nous inviter chez lui. J'étais d'abord un peu méfiant, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis finalement, on a communiqué à travers la musique. Et c'était une magnifique rencontre, toute de simplicité et puis de chaleur.
Mais je sais pas s'il s'appelait Calic vraiment, moi c'est un prénom que j'ai trouvé.
Je me rappelle pas de son nom, Martine. Je pense qu'à la mémoire des noms, elles sont... Aïda ou quelque chose comme ça, Martine saurait le dire.
Et puis bon, la nuit elle tombe pas sur le Groenland.
Ah, il s'appelle NT.
Ouais. Bah, puis quand je dis la nuit est tombée sur le Groenland, c'est une façon de parler, parce que j'imagine qu'en juillet elle tombe pas vraiment.
Il n'y a pas de nuit non plus, non?
Mais on peut, c'est une forme de nuit, mais c'est une nuit claire.
C'est le soir.
C'est une nuit très 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 claire. Oui, Courtepin. Alors, la sculpture, on en parle dans un instant. Mais Courtepin, on entendait l'éternel Michel Denneria à Courtepin. C'est vrai qu'il y a quelques élevages pour quelques grands distributeurs. Est-ce que c'est encore le cas?
C'est avec le syndic, ouais, Paul Michel de l'époque.
Courtepin, papa électromécanicien, maman aide infirmière, une sœur aînée. Bon, jusque là, on est bon.
On est tout juste.
On est tout juste. Et la sculpture et l'accordéon. Alors oui, ça, on peut peut-être y revenir.
Oui, peut-être la sculpture. C'est vrai que c'est le premier métier que j'ai appris avant de ce diplôme de la musique au conservatoire à Fribourg. Et j'ai essayé de le garder en vie, ce métier, en l'associant à la sculpture, parce que c'est quelque chose qui est en perte de vitesse totale. La décoration de meubles, les armoires fribourgeoises qu'on pouvait faire chez nous, ces choses-là. Les armoiries de famille, donc ça n'existe plus du tout.
Ça n'existe plus.
Non, je peux dire que ça n'existe plus. En tout cas, dans ma région, peut-être dans des régions bernoises, un peu plus de montagne ou plus près du village de Briens, mais même là-bas, il y avait énormément d'indépendants sculpteurs sur bois qui ont fermé boutique. Il n'y en a plus beaucoup maintenant.
Parce qu'à Briens, il y a une école de sculpture.
Il y a encore toujours l'école suisse
que
de
vous
sculpture sur bois. Moi, j'ai fait les examens là-bas, tout un tas de stages, mais j'ai appris en privé chez Ernest Ruffieux, comme vous l'avez dit, à Placelbe.
Ça veut dire que l'école existe toujours, mais alors il n'y a plus d'étudiants ou ces étudiants n'ont plus de travail?
Il y en a encore, bien sûr. L'école est toujours aussi, fonctionne toujours comme avant, si on veut. Mais le problème, c'est plutôt, il y a beaucoup d'appelés, si on veut. Et puis après, à la fin, comment vont vivre, comment vont pouvoir joindre les deux bouts ces gens qui sortent tous de l'école avec beaucoup de talent. Ils sont tous d'excellents sculpteurs, ils auraient tous le droit de bien réussir, mais c'est plus demandé. Alors, ou bien ils trouvent vraiment une idée qui que les gens remarquent et qui retiennent avec, avec laquelle ils ont envie de participer, d'adhérer, ou bien ils trouvent vraiment une idée comme ça, ou alors ils sont obligés d'arrêter.
Est-ce que c'est un passage à vide? Moi, je fais une sorte de parallèle un peu foireux, pardon, mais on est au début de ce que l'intelligence artificielle peut nous offrir, et on n'a rien vu, donc dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça sera exponentiel. Est-ce que les métiers manuels comme la sculpture sur bois n'offriront pas précisément une réponse à ça? Est-ce que ces métiers-là ne vont pas être, du coup, face à tout ce qui pourra être traité par l'intelligence artificielle, totalement réhabilité? Vous voyez le raisonnement que j'essaie de suivre? Je me dis que oui, les gens qui travailleront, comme vous le faites, de leurs mains, ont peut-être, étonnamment, paradoxalement, beaucoup d'avenir, non?
Ah, j'ai peur que non.
On peut imaginer des imprimantes 3D qui font les mêmes sculptures.
Je veux dire...
Vous me déprimez, Mélanie, vous me déprimez.
je fais une grande entorse à ce biais positif maintenant, mais...
Pour le coup, c'est moi qui suis positif qui étais un peu...
C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, négatif. Absolument. Là, j'aurais besoin d'être bien entouré. Je fais un petit lien avec une exposition qu'on a fait une fois, une de ces 10 expositions qui font partie de cette démarche de sensibilisation. On l'a faite à Briens en 2009, justement, juste à côté de l'école, dans une magnifique galerie qui appartenait à la commune, au bord du lac, donc un lieu fantastique. Puis on s'était dit, on va laisser cette galerie ouverte le soir jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne, que ça soit 10h ou 11h. Et puis comme elle a duré plusieurs semaines, 6 semaines je crois, tout à coup, à partir de 8-9h le soir, il y a une population un peu particulière qui a commencé à arriver, plutôt jeune, et des gens très très intéressés. Ils n'allaient pas regarder le prix en tout premier, ils allaient regarder la sculpture, les détails, les photos, le texte qui accompagnait, c'est quoi le message, de quoi on parle exactement. Après, on avait organisé une machine à café pour que ça soit convivial, que les gens restent, qu'on puisse échanger avec. Puis là, on a compris que c'était, pour la plupart d'entre eux, c'était des jeunes qui avaient terminé l'école il y a déjà quelques années. Et c'est terrible de dire, mais beaucoup d'entre eux étaient dans une détresse immense parce que ce rêve qu'ils avaient projeté d'avoir aussi une fois un bel atelier avec un puits lumineux quelque part, des beaux projets à réaliser, parce qu'ils sont tous excellents, ces sculpteurs sur bois qui sortent de là-bas. Mais c'était une population très abîmée, avec toutes sortes de gros, gros problèmes à régler avant celui de trouver du travail. Et ça, c'est la réalité. Enfin, c'est ça. Mais après, c'est vrai que toute cette sensibilité chez ces gens, elle pourrait tellement bien servir avec les sculptures qu'ils pourraient faire ou avec toutes les interventions artistiques qu'ils pourraient imaginer. Elle pourrait tellement servir toutes sortes de causes, le climat, la pollution, par exemple. Mais il faut leur en donner une chance. Et là, il faut que ces gens, il y a rien d'autre que leur propre capacité. Personne ne leur aidera pour essayer de mettre sur pied une idée vraiment qu'ils peuvent développer avec leurs propres moyens, qu'ils peuvent amener vers les gens. Et puis petit à petit, après, quelque chose pourra grandir. Mais il faut beaucoup d'élan pour mettre en route un moteur solide comme celui-là au début, quand il n'y a rien, même pas de l'intérêt, beaucoup d'indifférence.
Et vous ne pensez pas que les métiers manuels et artistiques, parce que vous êtes à la confluence des deux, ont un avenir précisément? On aura besoin de gens qui font ça avec leurs mains. Alors bon, Mélanie parle d'imprimantes 3D, c'est vrai qu'elles sont capables
de tout faire.
Oui, on peut tout faire. Mais on peut même faire de la radio avec des voix trafiquées,
oui,
des voix artificielles.
D'ailleurs,
c'est pas nous. Vous pensez pas que ces métiers-là ont quand même un avenir, Daniel Rohrbacher?
J'ai envie de répondre que ça va être extrêmement difficile pour ces personnes qui se sentent appelées à avoir une démarche artistique dans leur vie, à s'exprimer à travers la peinture, le dessin, la sculpture, la musique. Il y a des modes d'expression qui trouveront plus facilement peut-être leur chemin, mais d'autres vont vraiment ramer. Ça va être très très dur.
Mais
c'est terrible de dire ça comme ça, mais c'est, je suis obligé de dire ce que je pense vraiment tout de suite.
Vous sculptez encore?
Oui, oui.
Pour vous, vous avez des clients, ça se passe comment?
Non, j'ai eu la chance d'avoir là maintenant deux belles commandes. Une que je viens de terminer justement pour le mois d'avril. Il y avait un délai, il fallait que ça se termine. J'ai fait un front de glace, à peu près 1,50 m de long, avec des détails comme on faisait il y a 100 ans dans les sculptures. Des détails, il me fallait des lunettes 2,5 pour arriver à faire tout ça. Enfin,
c'est en glace? Ou en bois.
En bois. En bois, mm-hmm. C'était du poirier étuvé. Donc ça, c'est des commandes que plus personne ne font aujourd'hui. J'avais la chance d'en avoir encore une comme ça.
Et c'est là, quoi un front de glace, pardon de vous interrompre, mais j'y connais rien.
Oui. Alors un front de glace, il faut s'imaginer, vous êtes devant un glacier, vous êtes dans un bateau ou dans un kayak, et puis le glacier, il se casse régulièrement, il y a des bouts qui tombent, et puis il reste ce front avec des fissures, des cassures, des crevasses découpées dans tous les sens, des lignes absolument fantastiques avec un rythme, avec des mouvements. Enfin, c'est passionnant, et c'était ça, sculpté dans du bois. Avec quelque part un ours invisible, mais bien présent, qu'on reconnaît en général seulement quand on en a parlé. Et puis, l'idée, il y a tout un message écologique là derrière.
Et donc ça, c'est quelqu'un qui prend cette sculpture chez
voilà,
lui, qui l'expose.
Qui sera monté sur une photo à l'arrière-plan. Ouais.
Voilà, c'est ça, un front de glace.
Ah, merci.
Je vous montre la photo.
Merci, parce que je suis très, j'apprends des choses grâce à vous.
Les glaciers qui vêlent dans la mer, comme en Alaska, par exemple, hein. On dit vêler comme une vache. Elles perdent leur masse de glace qui forme des icebergs plus tard. Vous avez inventé, ou en tout cas vous développez, ce qu'on appelle la photosculpture, Daniel Rohrbacher. Alors, on a parlé de photo avec notre invité hier, mais vous, c'est à la fois la photo et la sculpture. Alors, rappelez-nous ce que c'est, ou dites-nous ce que c'est.
Ouais, alors il y avait deux constatations. À un moment donné, je me rendais compte, les sculptures, ça intéresse plus personne. On peut faire même des travaux avec beaucoup d'engagement, avec 300 euros autour. Les gens les regardent plus, ils regardent le prix à l'exposition en tout premier.
Quelle détresse.
Et après, je me suis dit, bon, il faut quelque chose qui appelle. Et puis, ça faisait déjà pas mal de temps que j'allais régulièrement en Arctique. Et puis, dans le fond, moi, je dis souvent, c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant, il n'y a même pas besoin d'être bon photographe, alors je ramenais beaucoup de belles images. Et de combiner les deux, ça a après donné de nouveau, ça a redonné vie à mon métier de sculpture sur bois. Et j'ai pu comme ça après mettre aussi sur pied ces expositions avec un but didactique. Et c'était plus facile à comprendre parce que la photo, elle parle quand même, elle parle plus ou plus rapidement, ou elle donne plusieurs clés de lecture que la sculpture, il faut prend plus de temps pour comprendre ce qui se passe exactement. Et voilà, les choses se sont mises un peu en route comme ça, avec ce souci, cette envie de faire une vraie démarche de sensibilisation. Donc c'est un peu ce que je disais avant avec quelqu'un qui se sentirait attiré par une démarche artistique. Un projet qu'on puisse mener soi-même, seul. Au début, on peut peut-être le proposer gratuitement, même dans des écoles primaires ou des écoles enfantines, enfin, là où il y a de l'intérêt, puis petit à petit, après, les choses, elles se construisent.
On en voit des photosculptures dans votre ouvrage La trace de l'ours blanc. Daniel Rohrbacher, ce titre de musique à 45 ans, bah, il est vraiment tout indiqué pour l'émission
ah oui.
du jour. Ça s'appelle Ice Bear.
Le début de Stephan Eicher.
Et c'est le début, absolument, avec son groupe Grauzaune. Je crois que c'est 1980. 1980, les débuts de Stefan Eicher avec son frère Martin, le groupe Grauzone. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Bon, c'est pas un sort enviable hein, d'être un ours polaire aujourd'hui. C'est le titre de votre précédent ouvrage, Daniel Rohrbacher. Vous connaissiez cette chanson-là?
Non, ça sortait en 8 ans, j'avais 11 ans.
Oui. Oui, évidemment, vous ne l'avez pas entendu à l'époque, mais elle est rediffusée. Et même si vous assistez au concert de Stefan Eicher, il adore la rejouer assez souvent sur scène, cette chanson-là. Et bon, alors, votre première rencontre avec un ours blanc, 19 juin 2006, je ne sais pas si c'était la première, en tout cas la plus marquante. Elle nous le racontait à peu près, en tout cas avec ses mots, elle, Mélanie. Mais je pense que c'est pas très loin de la réalité. Vous étiez à Ny-Alesund, au Spitzberg, ce 19 juin 2006. Racontez-nous cette rencontre fortuite avec l'ours blanc.
Alors c'était ma toute première sortie seule, sous tente. Et puis j'avais choisi Himmerbukta, c'est un petit fjord au nord de l'Isfjord, dans la partie nord du Spitzberg. Pas très loin de Longyearbyen, finalement, de l'autre côté du fjord.
Alors Longyearbyen, c'est au
kilomètres.
Sud, c'est le petit village qui est la capitale de l'archipel.
Voilà. Et puis il y a l'immense Nysfjord qui passe à tout près de Longyearbyen, et c'est de l'autre côté. Donc un trajet en bateau relativement court, et puis on est déjà à Himmerbukta. Et puis là, le deuxième matin, je crois déjà, où il y avait un genre, c'est des photos du Lesmarkbrynn, le glacier juste en face. Et puis tout à coup, je vois une petite boule blanche un peu crème comme ça venir tout doucement. Et puis après, il va rester effectivement 6 heures dans le périmètre. D'abord 3 heures, en tout cas à 300 mètres. Puis pour finir quand même les 3 dernières relativement près de la tente. En faisant encore les derniers mètres au pas de course, il y avait un étroit passage un peu depuis la mer avec de la neige mouillée. C'était le mois de juin, alors il est monté là au pas de course, mais tout à coup il s'est arrêté. Et là j'avais des conseils de mon ami Anton à l'époque, qui connaissait bien les ours polaires. Il avait hiverné dans une cabane de trappeur déjà 2 ans, c'est vraiment quelqu'un du coin qui connaissait tout sur les ours. Puis il me disait, avant 15 mètres il faut rien faire du tout, c'est criminel. Alors, j'ai rien fait du tout.
Vous aviez forcément un fusil?
J'avais un fusil, des fusées lumineuses, avec tout ce qu'il fallait pour faire du bruit, pour l'effrayer, mais j'ai rien.
Il paraît qu'il faut commencer par faire du bruit, ça peut le faire partir.
Voilà, puis bien se montrer, faut qu'il voie à un moment donné qu'il y a quelqu'un ici, qui se cache pas. Et puis, mais j'ai rien dû faire. Il s'est arrêté avant ses 15 mètres, peut-être à 20 mètres. Et puis après, il est resté après encore un certain temps là. Puis après, il va longer le petit bras de moraine sur lequel je me trouvais, puis partir.
Il est resté à faire quoi, là?
Oui.
Il y avait à plusieurs endroits des mares un peu d'eau, avec de la glace. Alors, il se frottait là, il se grattait, il se tournait, il passait du bon temps, tout simplement.
Mais est-ce que vous êtes une proie potentielle pour un ours blanc? Oui, s'il a faim?
Alors, je crois pas que l'être humain est le premier sur la liste du menu, vraiment pas. Et quand on regarde un peu les accidents qu'il y a de temps en temps, il y en a quand même relativement peu. On peut toujours bien comprendre ce qui s'est passé finalement. Et il y a, alors, je serais pas à l'abri de faire une fois faux, de faire une bêtise. Je lance la pierre à personne, mais par après, c'est clair, on est toujours plus malin. Mais on voit toujours qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Comme par exemple, une fois, il y avait un groupe de jeunes qui étaient venus là faire une école de survie. Ils étaient 18 ou quelque chose comme ça.
Toujours au Spitzberg.
Au Spitzberg, près du glacier du Von Postbrin, qui est encore un peu plus près du village de Longyearbyen. Et puis là, à un moment donné, ils sont tous allés se coucher sous tente. Alors, ils ont mis les protections tout autour, mais...
Qu'est-ce que c'est, les protections?
Les protections, c'est 4 piquets, on va dire, et avec un explosif, un détonateur et une goupille qui retient
la fusée,
qui empêche le détonateur de se déclencher.
C'est comme une sorte de clôture, en fait.
Voilà.
Et s'il s'approche, ça explose.
Si quelqu'un passe à travers le fil, puis tire sur ce fil, ça sort la goupille, et puis ça fait exploser après ces
potentiellement
explosifs.
Ça fait peur à l'ours et il s'en va en courant.
Ça fait juste du bruit, exactement, puis on espère qu'il part dans la bonne direction. Et donc en fait, c'est une protection qui est là juste pour rassurer. Moi, je pense qu'il faut vraiment toujours que quelques personnes soient réveillées et regardent tout ce qui se passe autour.
Il faut monter la garde.
Ils ont tous dormi.
Et là, ils dormaient tous.
Donc, en fait, il faut monter la garde, c'est ce que vous nous dites.
À mon avis, il faut toujours
qu'il y ait un être humain éveillé avec un fusil à proximité.
Oui, même le fusil, bon, mais en tout cas réveillé, et puis qui regarde avec des jumelles aussi, qui regarde ce qui se passe, au moins toutes les 10 minutes, se lever, aller voir. Et puis, c'est ce qu'on fait en général toujours. Et bon, là, j'étais seul, alors j'ai mis ça autour de la tente. Et sinon, j'essaye d'être dans une cabane, si possible, ou de me mettre vraiment en montagne quelque part où j'ai aucune chance qu'un ours vienne jusque-là.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes? Donc, ils avaient mis la clôture, mais tout le monde dormait.
Tout le monde dormait, puis un ours est passé par là avec une maladie à la gencive, une canine extrêmement abîmée. Donc, il était très amaigri, très affamé. Et puis là, alors clairement, c'était sa survie à lui. Il a pris un jeune dans une tente et puis qui est mort après.
Oui, ce sont des accidents qui effectivement arrivent pas chaque année, mais tous les 2-3 ans au Spitzberg, en reprenant les chiffres, il y a assez régulièrement des personnes décédées. Daniel Rohrbacher, on revient quelques années en arrière, c'est 1999, vous nous l'avez confié, avec Martine, pour notre voyage de noces, nous avons choisi cet endroit. Alors c'est pas le Spitzberg, c'est l'Alaska, alors, je sais pas comment il faut prononcer ça, 1999, bientôt 30 ans. Kotzebue.
Oui, on le dit Kotzebue, nous aussi.
Kotzebue.
Ouais.
Alors pourquoi là-bas?
Drôle de voyage de noces, hein.
Oui, mais
enfin,
c'était
pas banal en tout cas.
Non, c'était. Moi, j'ai d'abord eu la chance que Martine accepte ma proposition, et puis pour moi, c'était vraiment essayer de réaliser un peu ce rêve que d'avoir aussi une fois une activité en Arctique, de au moins de voir une fois qu'est-ce qui se passe là-bas et comment c'est. Alors on a choisi Kotzebue, je me rappelle bien, à l'époque le bouquin avec lequel on voyageait nous conseillait plutôt d'aller à Nome, parce qu'il y a des rues marchandes, il y a un peu des galeries ou des choses comme ça.
Alors l'Alaska c'est grand.
Nommé. Alors c'est sur la côte ouest,
Alaska.
En face de la mer de Chukchi, en Alaska, et
en Alaska.
Très
ouais.
Au nord. Alors Nome c'est juste un peu au sud de Kotzebue, puis ça nous faisait pas trop envie, on s'est dit on a tout ça à Berne déjà. Alors il y avait un autre village.
Les arcades,
village,
oui.
Pas assez sauvage.
Il fait un peu plus chaud. Il fait un peu plus chaud, oui.
On a choisi Kotzebue, puis il nous mettait un peu en garde. Je sais pas, c'est bizarre qu'on ait choisi ça finalement, mais voilà, il y a pas de hasard. On est arrivé là et les gens nous ont dit tout de suite, pour monter votre tente, il faut chercher, trouver un endroit, demander. Vous êtes toujours chez quelqu'un, faudra demander. C'est ce qu'on a fait. Au début, on nous voulait pas trop, jusqu'à ce qu'un camp de pêcheurs nous accueille. Puis là, on a vécu une découverte de ce milieu arctique fantastique, vraiment.
Et là, vous rencontrez, vous la citiez dans votre portrait, Mélanie Bela, une grand-maman attachante et active au milieu de ce camp de pêche.
Oui, Bula, il y avait pas que Martine et moi, il y avait encore d'autres personnes, il y avait un peu des personnes âgées de la région qui venaient là aussi un peu pour découvrir un peu la culture des Inupiat, les gens qui habitent là-bas. Mais par un concours de circonstances aussi, on se trouvait là en même temps qu'ils avaient leur filet de 50 mètres depuis la rive juste dans la mer avec les saumons qui remontaient vers leur rivière d'origine. Et on a pu, c'était vraiment un coup d'hasard, on a pu découvrir comment l'importance que ces saumons avaient pour ces gens, comment ils les préparent, et puis toute la joie qu'elle a autour. Et Bula, alors, elle a su que Martine était institutrice, et puis tout à coup, elle a voulu lui montrer tout ce qu'elle utilisait, tout ce qu'elle avait su faire aussi dans sa jeunesse, comment avec la peau des morses, elle faisait les maclaques, par exemple, ces grosses bottes chaudes, comment ils faisaient des lanières en cuir, etc. Et ça a été une grande découverte et un premier pas comme ça dans ce monde de l'ours polaire. Et tout le respect que ces gens avaient pour cet animal, tout ce qu'ils pouvaient leur apporter aussi d'extrêmement, parce que là-bas il fait très froid, alors à Kotzebue en hiver c'est
fait plus froid qu'au Spitzberg,
ça peut être
ouais.
Des -60, -70 avec le vent, c'est absolument abominable. Et là
il y a pas le Gulf Stream en Alaska.
Non, il y avait que ces pantalons en fourrure d'ours polaire qui pouvaient aider les gens.
Parce qu'ils vivent aussi dans des petites cabanes. Ils vous en ont filé une d'ailleurs au bout d'un moment.
Alors c'était un petit paquet de cabanes d'une pièce ou deux comme ça, minuscule, et puis il en restait une de libre, on n'a pas monté notre tente, on a été dans cette cabane, mais sinon dans le village de Kotzebue, les gens vivent dans des maisons un peu comme dans ces villages en Alaska qui sont très simplement faites de bois très léger, quelques tôles, et on chauffe beaucoup à l'intérieur, on se demande comment ça marche, mais ça fonctionne et c'est souvent comme ça.
C'est toujours comme ça aujourd'hui, quasi 30 ans après, les populations vivent toujours de la même manière, et question subsidiaire, subissent-elles ces populations les effets du réchauffement climatique aussi?
Je peux pas répondre à la première partie de la question parce que je suis jamais retourné en Alaska. Ça aurait été beau de retrouver Bula, on l'a jamais fait. Donc je peux pas dire comment c'est maintenant en Kotzebue, comment sont ces régions. Par contre, sur comment vivent de plein fouet vraiment les gens là-bas, le réchauffement climatique, alors ça, on peut prendre par exemple cet exemple avec le Spitzberg et cette avalanche qui s'est abattue sur le village en 2015. Ça, c'est un exemple. Les précipitations, les
précipitations, extraordinaires, là-bas aussi.
Voilà, parce que c'était un climat désertique, sauf erreur, et c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Les masses, les volumes de neige ont aussi plus le même poids, parce que tout à coup, il peut aussi pleuvoir, tout simplement, là-dessus. Et tout à coup, ce pan de montagne qui avait jamais bougé est descendu tout en entier sur le village. Donc vraiment, le réchauffement climatique en Arctique, on peut dire, sur le pas de chaque porte.
Comme à Blaton et comme ailleurs dans les Alpes, on se souvient du mois d'août 2017 dans le Val Bregaglia aussi, la catastrophe de Bondo, on nous l'a rappelé depuis 2-3 jours, au fond, tout ça est en marche, mais ce que vous nous dites, Daniel Robasser, c'est que c'est en marche aussi dans les régions arctiques. Et alors, il y a moins de monde, mais par contre, il y a plus de montagnes, il y a plus de glaciers. Et au fond, est-ce que tout ça est monitoré? Est-ce que la science s'est emparée de ces régions-là? Comme, évidemment, ici, on a pu évacuer la population à temps. Les géologues valaisans ont fait un excellent travail. Mais est-ce que là-bas, sur place, c'est aussi étudié que chez nous, ici, dans les Alpes? Est-ce que vous le savez?
Je peux seulement répondre par rapport aux ours polaires. Je sais que les scientifiques de l'Institut polaire norvégien, qui est basé à Tromsø, qui s'intéresse vraiment aux ours polaires, eux, par rapport au réchauffement climatique, ils ont des données extrêmement précises sur la perte de son habitat, sur des prévisions un peu futures, et puis l'impact que ça aura sur ces populations d'ours polaires. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien connu par ces scientifiques. Par contre, après, sur le plus grand danger d'avalanche ou même la fonte de ces glaciers là-bas qui semblent être encore plus rapides que celles dans nos Alpes, là je peux pas répondre après.
Cavale, cœur de pirate, je crois qu'elle est du Canada mais côte est, le Québec.
Je repense souvent
Caval, cœur de pirate. Ainsi s'achève cette première heure de Drôle d'époque. On en a une deuxième juste derrière avec notre invité Daniel Robasser. On y retrouvera aussi Émilie Gasque. On se quitte le temps des infos, 16h pile sur RTS Première.